sacrés coups de hanche qui vous fichent au cœur la peur blanche, mieux qu'un roulement de tambour. Le pauvre, il est effectivement mort fou, fou d'amour et fou du Christ. Et Sarah pense avec raison peut-être que ses mois béroutins et son pèlerinage à Jérusalem ont été, tout comme la rencontre de saint Benoît Labre, son patron, et celui de Verlaine, les débuts de ce trouble mélancolique qui conduisirent à la crise de 1891. Il traçait des signes de croix sur le sol avec la langue, marmonnait d'incessantes prières, se défaisait de ses vêtements. En proie à des hallucinations auditives, il ne répondait plus aux sollicitations extérieures. On l'interna. Et soit qu'il prit sur lui de dissimuler le mieux possible les marques de sa sainteté, soit que l'effet de l'absinthe passa, quelques mois plus tard, on le relâcha. Il attrapa alors son sac et son bâton et s'enfuit à Rome, à pied, comme saint Benoît Labre au XVIIIe siècle. C'est Dieu qui conduisait à Rome, mettant un bourdon dans sa main, ce saint qui ne fut qu'un pauvre homme, hirondelle de grand chemin, qui laissa tout son coin de terre, sa cellule de solitaire, et la soupe du monastère, et son banc qui chauffe au soleil, sourd à son siècle, à ses oracles, accueilli des seuls tabernacles, mais vêtu du don des miracles, et coiffé d'une imbe vermeille. La pratique de la misère. Voilà comment Sarah appelle la règle de Saint-Germain le Nouveau. Les témoins racontent qu'au cours de ses dernières années à Paris, avant de partir pour le Sud, il vivait dans une mansarde, où il dormait sur un carton. Que plus d'une fois on le vit, armé d'un crochet, chercher sa nourriture dans les poubelles. Il enjoignit à ses amis de brûler ses œuvres, intenta des procès à ceux qui les publièrent malgré lui. Il passa les 10 dernières années de son existence en prière, à jeûner plus que de raison, à se contenter du pain que lui donnait l'hospice. Il finit par mourir d'inanition, d'un trop long carême, juste avant la Pâque, sur son grabat, avec les poux et les araignées pour seule compagnie. Sarah trouvait extraordinaire qu'on eût connu de son grand œuvre, la doctrine de l'amour, uniquement ce qu'un admirateur et ami, le comte de Larmandie, en avait appris par cœur. Aucun manuscrit. Larmandie disait « Comme les explorateurs des villes mortes, j'ai dérobé et caché dans mon cœur pour les restituer au soleil les joyaux d'un roi disparu. » Cette transmission, avec toutes les ombres d'incertitude qu'elle projetait sur l'œuvre, Nouveau n'écrivit-il pas à Larmandie lorsqu'il découvrit son recueil ainsi piraté « Vous me faites dire n'importe quoi ». Cette transmission rapprochait Nouveau des grands textes anciens, des mystiques des premiers temps et des poètes orientaux, dont les vers étaient retenus oralement avant d'être écrits, souvent des années plus tard. Sarah m'expliquait dans ses fameux fauteuils devant un thé à l'étage l'amour qu'elle portait à Nouveau. Sans doute car elle avait le pressentiment qu'elle-même, un peu plus tard, allait à son tour choisir l'ascèse et la contemplation, même si la tragédie qui serait responsable de ce choix n'avait pas encore eu lieu. Elle s'intéressait déjà au bouddhisme, suivait des enseignements, pratiquait la méditation, ce que j'avais du mal à prendre au sérieux. Est-ce que j'ai quelque part le germain nouveau au Liban et en Algérie de Sarah? J'ai sorti hier soir la plupart des tirés à part de ses articles. Centre de la bibliothèque, rayon de Sarah. Reposer le Pessoa sur son lutrin, ranger Nouveau à côté de Levet. Les textes de Sarah sont placés au milieu de la critique musicale. Pourquoi? Je ne m'en souviens plus. Peut-être pour que ses œuvres soient derrière la boussole de Bonne? Non, c'est idiot. Pour que Sarah soit au centre de la bibliothèque comme elle l'est de ma vie? C'est tout aussi idiot. À cause du format et des jolies couleurs des tranches de ses